Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons une invitée qui vient nous parler d'un art martial traditionnel séculaire hérité des samouraïs, le kyudo, le tir à l'arc japonais qu'elle enseigne ici au Mans. Bonjour Catherine Boucher.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Asialogie. Et puis après le kyudo, Catherine, après ce moment de sérénité, Didier nous initiera à une philosophie, l'ikigai, qui peut être bien utile aussi, non seulement pour pratiquer le kyudo, mais aussi pour se sentir bien dans sa vie.
Oui, on va voir ça tout à l'heure. D'abord, on va apprendre un petit peu avec Catherine
un tas
de choses.
Alors Catherine, pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le kyudo et de ce qui vous a inspiré à devenir sensei, enseignante?
En fait, j'ai pratiqué l'aïkido pendant 45 ans et au cours d'un stage d'aïkido, j'ai eu la chance de voir une démonstration de kyudo et ça a été une vraie révélation pour moi, tant par la beauté des gestes que par la sérénité des pratiquants, et donc je me suis mise au kyudo à la suite.
45 ans de pratique de l'aïkido.
Oui, wow. Et ça fait un petit peu plus de 30 ans de kyudo.
D'accord.
Et ce qui m'a amené à enseigner, c'est quand on aime quelque chose, on a envie de le partager.
C'est
et
vrai.
J'aime tellement le kyudo que j'avais vraiment envie que d'autres puissent apprécier autant que moi.
Oui, donc vous êtes devenue enseignante de kyudo après combien de temps de pratique de kyudo?
Après à peu près 15 ans.
15 ans quand même.
Oui,
c'est un long parcours quand même pour arriver au niveau de l'enseignement.
Ah, je pense qu'on peut enseigner plus tôt, mais moi j'ai pris du temps pour moi, pour bien apprécier. Et puis quand l'occasion s'est présentée, je me suis lancée.
D'accord. Alors comment on définit le kyudo?
Alors le kyudo, ça veut dire pratique du tir à l'arc japonais. Donc le but du kyudo, ce n'est pas de toucher la cible, c'est plus de toucher sa cible intérieure.
Toucher sa cible intérieure.
Ah, oui.
Oui. Oui, alors ça doit pas être si simple que ça. Alors expliquez-nous.
En fait, quand on pratique le kyudo, le but donc n'est pas... La cible existe, elle est là pour être touchée, mais c'est pas le point principal. Mmh. Le point principal, c'est son évolution personnelle.
D'accord.
Donc sa cible intérieure, c'est ça, trouver les points d'amélioration de sa personne.
Oui, alors du coup, c'est ça qui le différencie des autres formes de tir à l'arc, en fait.
Oui, en grande partie, en fait, la qualité de tir est le point principal et non pas la réussite. La beauté doit aussi transparaître dans le tir. Quand des pratiquants font une démonstration, il faut que le public soit waouh, soit complètement impressionné par la beauté.
C'est dans la préparation du tir, dans le tir en lui-même, mais s'il atteint pas sa cible, c'est pas le plus important finalement. C'est tout ce qui s'est passé avant et au moment où la flèche part.
Voilà, c'est tout à fait ça. Si elle touche la cible, tant mieux, c'est un plus.
Oui.
Mais si elle touche pas, tant pis.
C'est ça, c'est pas du tout le même objectif finalement que le tir à l'arc, on va dire, qu'on pratique aux Jeux Olympiques.
Absolument pas. Très différent.
Donc il y a toute une philosophie derrière. Alors est-ce qu'il y a une histoire particulière du kyudo au Japon?
Le kyudo est issu du Japon médiéval et trouve son origine dans l'art guerrier des samouraïs et aussi d'un autre côté dans... les pratiques religieuses, puisque l'arc a une symbolique religieuse très importante dans le Shinto.
Dans le Shinto.
Oui, même encore actuellement au Japon, l'arc est vraiment un symbole religieux important.
Il est relié à une divinité particulière?
Non, en fait, il y a toutes les divinités ne forment qu'un tout.
Oui.
Donc l'arc fait partie du tout.
L'arc fait partie du tout. Moi, je suis toujours ébahie devant les images que ça nous renvoie. Très philosophique. Et donc justement, on y arrive à la question de la philosophie et je dirais les aspects un petit peu culturels dans la pratique du kyudo. Donc, vous nous avez dit, Catherine, que ça se pratiquait donc au Japon pendant le Moyen-Âge japonais, qui a duré assez longtemps, jusqu'à 17e siècle à peu près, on peut dire ça, ou 16e siècle au Japon.
Oui, au 16e siècle avec l'arrivée des armes à feu. En fait, l'arc, l'utilisation de l'arc sur les champs de bataille, n'avait plus d'intérêt. Et donc, l'arc est devenu plus un travail sur la maîtrise de soi.
D'accord, d'accord. Oui, c'est les armes à feu qui ont
fait le dessus, forcément.
Voilà, tout à fait.
Mmh. D'accord. Et comment le Kyudo contribue au développement personnel, physique et spirituel de ses pratiquants? Oui. Justement, vous dites qu'il faut trouver sa cible intérieure. Alors, oui. Est-ce que y a quand même on peut savoir un petit peu comment?
En fait, pour pratiquer le Kyudo, il faut perfectionner sa posture, très important. Il faut de la volonté, de la persévérance et une sincérité profonde.
Et une sincérité profonde.
Oui, il faut, il faut cultiver le lâcher-prise, c'est-à-dire oublier complètement son ego, parce que si on ne l'oublie pas, on voudra toucher la cible. Et donc là, ce n'est plus du Kyudo, c'est du tir à l'arc occidental.
D'accord, ok, oui, c'est sa cible intérieure qu'il faut chercher.
Toujours. En fait, réaliser le geste juste.
Alors, Catherine, on va écouter Kenshi Yonesu, c'est Tsuki wo Miteita. Moon Gazing, la chanson. Akari yanagi ga yureru watashi wa robo no tsubu de omoi haseru anata no sugata hitsuji wo kasoeru youni wakare yuku imi ga aru nara せめて悲しまないで静間から離れた空へ一筋の愛を込めてどんな夜だって失い続けたって共に生きてきたろう瞬くように私の前に現れたのがあなたでよかったまるで何もかもがなかったかのようにこの日は消えたりしないきっと風が叩けばわずかに開け放してただ一つそうただ一つ語り得ぬ声で叫ぶ生まれ変わったとして思い出せなくだって見つけてみせるだろうあなたの姿全てを燃やして月を見ていた誰かがそれを憐れむとしてもあなたがいれば幸せだったんだおよそ正しくなどなかったとしても消えたりしない
Alors, on se retrouve pour le Kyudo et maintenant, on va avancer dans la pratique avec le matériel, si j'ai bien compris. C'est ça?
Oui. Oui, ah. Catherine, parlez-nous de l'équipement. C'est donc, très beau la tenue du kyudo, je trouve.
Oui, moi aussi. le kyudo, en fait, la tenue, il y a le keikogi, en fait, ce que souvent on appelle kimono par erreur, mais en fait, c'est un keikogi.
Keikogi,
donc c'est une espèce de chemise blanche et nous, à manches courtes. Nous avons la kama, donc une jupe culotte noire à plis, le hobi, la ceinture. Et puis les tabis, donc les espèces de chaussettes un petit peu en forme de thon, là, qui se ferment derrière. Et nous avons pour pratiquer l'arc, donc l'arc traditionnel en bambou, qui fait entre 2,21 m et 2,45 m, et qui est fabriqué toujours comme il y a 400 ans. Toujours la même méthode de fabrique.
D'accord. Le plus petit, c'est 2,21 m.
C'est ça.
C'est oui. Très précis.
À oui, tout et, même. Et c'est vraiment pas pratique, je peux vous le dire, pour prendre le métro ni le train. Ça, je vous assure.
J'imagine.
Oui, parce qu'ils sont pas démontables, en fait.
Du tout. Et donc, quand on tire, ils sont un peu pliés. Et quand on les range, ils sont un peu plus... Ils sont dans toute leur longueur.
Et oui, ils d'accord. Sont complètement détendus.
Voilà.
Ah oui, la housse dans le TGV, c'est pas top.
Voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de prendre le métro à Tokyo avec. Et ben, je vous assure que c'est encore pire qu'à Paris.
D'accord.
Oui, il y a plus de monde.
Beaucoup.
C'est ça, beaucoup plus de monde. Et puis, oui, et on bouscule pas trop, enfin, là-bas.
Non, du tout.
Donc c'est une tenue, oui, donc la kama c'est noir, c'est ça?
La kama peut être noire, peut être bleue, peut être à rayures aussi quand on est très gradé, voilà. Et puis il y a aussi le kimono, alors le vrai kimono à grandes manches pour les tirs de cérémonie. Les hommes dénudent l'épaule gauche et les femmes attachent les manches avec un ruban. C'est très joli.
Oui, on imagine.
Et les kimonos sont de couleur, pour les femmes, de couleur celle qu'on veut en fait, avec la kama noire, c'est vraiment très joli.
Ça donne envie.
Ça fait envie d'aller voir et de comprendre.
Venez voir.
Oui. Alors, y a-t-il différents niveaux de formation ou de certification dans le kyudo, Catherine, comme dans les autres arts martiaux, comme les dan, par exemple, pour le judo.
Oui, donc on a les dan comme dans l'aïkido aussi.
Vous avez des dan.
Voilà, on a des dan qui sont passés, par contre, devant des sensei japonais.
Ah, devant toujours. Des sensei toujours. Japonais.
Voilà, donc soit on va au Japon, soit les sensei viennent en France.
Ah oui,
donc
d'accord.
Des très hauts niveaux. Hein,
oui, j'imagine.
Voilà. Et puis nous avons aussi depuis peu créé le CFEB, c'est le certificat fédéral d'enseignement bénévole. Et oui. Il y a aussi des niveaux japonais, donc le Renshi et le Kyoshi, donc qui sont aussi des niveaux d'enseignement qui sont donnés par les sensei japonais.
D'accord.
Plus haut gradé.
Ah oui, donc il y a des Japonais qui viennent régulièrement en France, j'imagine, faire passer les examens, ça se passe comme ça.
Alors ils viennent en Europe.
En Europe.
Ah oui.
Donc ils sont venus.
La tournée.
Voilà, c'est ça. Alors ils sont venus très souvent en France. Enfin, c'est plutôt les pratiquants qui font la tournée.
D'accord.
Parce qu'ils viennent soit en France, soit là cette année ils vont venir à Vienne, soit ils.
Ah, c'est vous qui vous déplacez.
C'est nous qui nous déplaçons. D'accord. Et c'est une chance de pouvoir pratiquer avec des pratiquants de kudo de nationalités différentes, de passer des grades avec des gens.
Très sympa.
Ça m'est arrivé de passer un grade avec deux Allemands, un Suédois. Et un espagnol. Quoi. Ouais. On ne parle pas la même langue, mais on a
c'est
la même
hiver.
Pratique, donc c'est très,
même
très,
qui
très sympa. Ouais,
okay.
Très, très.
Alors, justement, Catherine, parlez-nous de la pratique du kyudo en France et au Mans. Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés? Oui, on dit licenciés, hein, je pense.
Oui, tout à fait.
Voilà, quelle est la place de la France dans cet art martial? Est-ce qu'on réussit? Et comment le pratiquer au Mans? Racontez-nous tout ça.
Alors, nous sommes en France très peu de pratiquants, nous sommes à peine 900.
Mmh. Ah oui, c'est très peu.
C'est très peu par rapport à d'autres pays, mais nous avons en France le plus grand nombre de hauts gradés en dehors du Japon.
Donc on est très doué finalement.
Donc on a de très très bons enseignants.
Très voilà, bons enseignants.
Exactement.
Donc, bravo.
Oui, moi je suis petite enseignante, mais c'est vrai qu'on a des enseignants de très très haut niveau en France, ce qui nous permet aussi d'avoir été champion du monde de kudo au Japon. On a battu les Japonais au Japon.
Donc, ah oui.
Ça, on le sait pas.
Non,
c'est étonnant.
On
a
été vice-champion du monde plusieurs fois. On est très régulièrement champion d'Europe et champion d'Europe par équipe et en individuel aussi. Puisque dans le kudo, il y a aussi les taikai, c'est-à-dire les compétitions, qui appellent un résultat, mais avec aussi la beauté du tir. Le tir est jugé pour sa beauté aussi.
Oui, il y a aussi un jugement.
Toujours. D'accord. Donc on a de très 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 bons résultats en France. Et au Mans, donc, pour pratiquer, nous sommes au gymnase des Bruyères, rue Henri Champion. Mm-hmm. Donc nous pratiquons le lundi de 20h15 à 22h15 et le samedi matin de 9h à midi. Donc on peut venir nous voir sur place.
Oui, on peut venir voir ce que c'est et s'informer auprès de vous.
Oui, on peut venir
le lundi soir.
La porte est grande ouverte avec plaisir.
C'est Super, merci.
Et puis, on peut aussi nous joindre par notre adresse email, donc kudo-jcm@orange.fr et sur notre site web, kudo-sarthe.fr.
D'accord.
Parfait.
Bah, merci beaucoup Catherine, c'était
merci.
Super de venir nous voir
c'était
et
un
nous
plaisir.
Apprendre tout ça. Donc on a besoin d'une pause musicale pour passer à autre chose Didier, il nous
c'est
faut
ça.
Faire ça en douceur après
voilà.
toute cette beauté
c'est
du
ça.
Kudo.
Exactement.
Merci beaucoup Catherine
merci.
Boucher.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
C'était Tokyo Girl avec Perfume. Didier, donc tu nous parles de l'ikigai.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ikigai ? Dis-nous.
Alors, l'ikigai, c'est une philosophie née à Okinawa, au Japon. Alors, Okinawa, c'est situé au sud du Japon. La population a une espérance de vie largement supérieure
c'est ce qu'on dit.
À la...
Hein ? C'est ce qu'on dit.
Oui, c'est ça. À la moyenne mondiale, environ... 50 centenaires pour 100 000 personnes.
C'est beau.
Cette île, elle a un secret. Ouais, c'est pas mal. Hein. Une alimentation saine, de l'exercice physique. Pourquoi pas du kyudo, hein, d'ailleurs. Et l'ikigai.
Voilà, d'accord.
Le principe de l'ikigai, c'est de trouver sa raison de vivre et de donner du sens à sa vie au travers d'une réflexion approfondie, sincère et pertinente sur soi et à sa vie au travers d'une réflexion approfondie, je l'ai déjà dit, et oui. Sur le monde autour de soi. Iki, ça veut dire vie ou vivre, et gai, ça signifie vaut la peine. On peut donc traduire ikigai par une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Alors, comment pratiquer l'ikigai, Didier? De quoi avons-nous besoin pour pratiquer ça?
Alors ça, c'est plutôt simple. Hein. Au niveau matériel, il suffit d'un joli carnet neuf et puis d'un stylo. Ça, c'est à la portée de tout le monde.
C'est plus facile qu'un arc de kyudo à transporter.
C'est plus facile, mais moi, quand j'ai entendu tout à l'heure l'intervention de Catherine, l'ikigai, je trouve que ça va... T'as bien choisi, ça va de pair avec ce qu'on nous a présenté tout à l'heure.
Oui.
L'ikigai, on doit avoir un peu de temps libre pour explorer la méthode, car pour pratiquer l'ikigai, on doit se questionner pour trouver sa propre mission de vie. Qui se trouve au centre de questions essentielles. Alors, la chose qu'on adore faire, la passion.
Oui.
Ce dont le monde a besoin, la mission. Ce pour quoi on est doué. Et le travail pour lequel on peut être payé, la profession. Voilà.
D'accord. Alors, j'imagine que se poser ces questions n'est pas suffisant. Il faut y répondre. Parce que se poser les questions...
C'est bien, mais ça ne suffit pas, tu as raison.
Ça ne suffit pas.
Oui, passer un peu de temps, d'ailleurs.
Oui.
C'est faire une introspection pour ensuite déterminer des actions concrètes pour avancer dans la bonne direction. Pour résumer, je dirais qu'il faut se retrouver soi-même et ne pas se mentir et l'écrire.
Oui, important.
Alors, la première étape, c'est la plus importante pour trouver son ikigai. Cette étape peut commencer par des questionnements tels que « Où j'en suis ? Ai-je besoin de changement ? Qu'est-ce que je désire ?» qu'est-ce que j'aime faire tous les jours? Comment je peux me faire du bien en tenant compte des autres? L'important dans la méthode, c'est de ritualiser ce rendez-vous avec soi-même en essayant de se donner le temps d'une réflexion quotidienne.
Oui, donc il faut l'écrire pour que ça marche.
Voilà. Il faut essayer d'observer ses pensées, de les analyser. Il faut se déconnecter un peu et puis se recentrer sur soi. La marche, le dessin, le sport, le jardinage sont de bons moyens pour accueillir les questions et les réponses qui vous viennent. Ouais, c'est ça que moi, ce week-end, je suis parti marcher. C'est vrai que quand on marche, c'est un bon moment pour ça.
C'est vrai. Mais alors, comment répondre à ces questions quand on n'a pas vraiment de passion ni de centre d'intérêt particulier? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à répondre à ce genre de questions.
L'introspection n'est pas si simple. C'est vrai que ce n'est pas évident de trouver son ikigai tout de suite. Il faut faire quelques efforts, surtout si on considère qu'on a un travail un peu alimentaire. Ce n'est pas impossible pour autant. Et dans ces cas-là, on change les questions à se poser. On peut se tourner vers ce qui nous rend curieux.
Oui.
Nous intrigue, avoir de la curiosité pour quelque chose peut se transformer en un projet. Si on sèche vraiment, on peut également remonter le temps pour se rappeler quel était notre rêve d'enfant. On a tous eu ça, des rêves d'enfant. Ensuite, on réfléchit à ce qui nous procure de la joie. Et chaque soir, on le note dans son carnet identifié.
Oui, c'est ça qui est important, c'est de noter toutes ces impressions, toutes ces émotions.
Identifier les petits bonheurs d'une journée. En trouver trois par jour pour positiver. On relit son carnet pour le compléter. Bon, important aussi, un truc moins sympa mais efficace, identifier ce qui nous rend envieux, jaloux. Ça aide aussi à identifier nos aspirations.
Oui, ça, il faut être honnête avec soi-même.
C'est ça, clairement.
Alors, comment fait-on, Didier, pour savoir si on est doué à quelque chose, si cela ne s'est pas vraiment manifesté? Enfin, c'est un petit peu la même question, mais,
oui.
mais on peut être doué peut-être, sans le savoir.
Oui, bien sûr, chacun a ses talents, ils sont parfois un peu plus enfouis que d'autres, c'est tout. Pour le côté professionnel, c'est facile. Plus on a la possibilité de s'exprimer dans un job, plus on est heureux. Il suffira d'identifier ce qui nous permet de réussir. Il suffira d'incarner ces qualités dans sa vie quotidienne et inversement. Puis, il faudra se fixer des petits objectifs pour ne pas se décourager. On choisira des actions simples à réaliser et on procédera par étapes, pas à pas. Il faut se faire confiance.
Alors, j'imagine que l'entourage est important, Didier, dans son ikigai.
Eh oui, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous soutiennent, qui ne nous jugent pas, qui nous encouragent, qui nous aident à prendre du recul. on évite la toxicité, c'est pas mal. Il faut s'éloigner des personnes négatives, celles qui nous prodiguent des conseils alors qu'on n'a rien demandé.
Oui, ça c'est clair.
On en connaît ça tous, hein, non, non, je suis sûr que les auditeurs ont déjà des noms qui leur viennent à l'esprit, qui projettent sur nous leurs propres angoisses. Alors, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'ikigai chez les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation et leur avenir. Les parents peuvent les aider à faire leur ikigai.
Oui, ça c'est, je trouve que c'est une
ça peut être intéressant
idée, ça,
aussi.
Pour des parents. Ça peut les aider eux déjà.
Oui,
et
ensemble.
Aider leurs enfants.
Et puis
après.
Il y a le côté ensemble aussi, je pense qu'il peut être intéressant.
Tout à fait.
Partager ça avec son enfant, je pense que ça peut être intéressant. Ils découvriront aussi leurs valeurs et leur conception du bonheur. L'ikigai, c'est comme une boussole.
Alors concrètement, Didier, comment on schématise son ikigai?
Alors le mieux, c'est d'aller d'abord sur Internet pour voir des exemples. De s'acheter un livre et sur le sujet pour faire son schéma de vie qui se présente toujours, voilà, comme un schéma de 4 cercles pour répondre aux 4 questions clés que je résume à nouveau. Alors, ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, dans quoi vous excellez, ce pourquoi vous pouvez être payé, voilà. Pour les quatre questions à traiter en dernier. Et ne concerne pas tout le monde. Hein,
parce que c'est voilà. Pour les enfants, tu peux juste encore
les trois. Oui, voilà, ça, mais les trois premières, elles sont essentielles.
Bon, merci Didier. Asialogie, c'est déjà fini.
C'est ça.
Alors les amis, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend toujours vos avis, vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut.
À la semaine prochaine.
Au
revoir Catherine. Merci.
Et merci d'être venue, c'était super. À l'année prochaine, on vous retrouvera de toute façon pour le Kudo.
Avec beaucoup de plaisir.
Merci.
お客様のご協力をお願いいたします。